C'est qui l'a fait ? Charlie Studio.
Vous souhaitez faire un don pour une association ? Une fondation ? Découvrez comment et à qui donner en quelques clics sur le site infodon.fr. Infodon, à chaque don son action.
Où naissent les vagues ? Un conte rocambolesque de Lord Esperanza. Chapitre 1. L'océan, le silence. Il était une fois un petit garçon de 8 ans nommé Naël. Curieux du monde, comme on peut l'être à son âge. Comme chaque été, il partait retrouver sa grand-mère, Mamo, pour une semaine de vacances sur la côte atlantique. Après seulement 2 heures, dans la chaleur du train, qui lui parurent interminables, l'enfant s'apprêtait à descendre. Naël se réjouissait, fatigué, mais heureux d'aller voir la mer, la vraie. L'océan, il le voyait, mais ne l'entendait pas. Naël était sourd de naissance. Pourtant, il réussissait facilement à s'imaginer à quoi ressemblait son bruit. Les vagues qui s'abattaient en boucle sur le sable, le vent dans ses cheveux, le sel déposé sur sa peau, tous ses sens explosaient. Les autres enfants le voyaient comme un handicapé, mais lui avait toujours perçu sa surdité comme un super pouvoir. Il avait la capacité de s'enfermer dans sa bulle quand il le voulait, pouvait même lire sur les lèvres et s'exprimait avec le langage des signes. Les appareils auditifs lui permettaient d'entendre les discussions, mais le plus souvent, Naël appréciait ce silence absolu. Autour de lui, les railleries étaient fréquentes. Dans son immeuble, ses voisins se moquaient de lui. Ils lui disaient qu'il ne serait jamais capable de jouer de la musique, qu'il ne pourrait jamais en écouter non plus. Il s'amusait à imiter des instruments et éclatait de rire en le regardant. Leur groupe de rock imaginaire se reformait à chaque fois qu'il le croisait dans le hall près de l'ascenseur. Cruel, infatigable. Naël faisait tout pour les éviter. Mais la bande lui tendait souvent des pièges. Il proposait d'aller jouer ensemble, feignait quelques minutes, mais finissait toujours par lui refaire la même blague et partait en riant. Naël s'était promis qu'un jour, il leur donnerait tort en apprenant la musique. Mamo lui avait souvent dit que Beethoven avait composé sourd. Pourquoi pas lui ? À la gare, les autres enfants couraient sur le quai, reçus en prince par leur grand-mère qui sentait bon. Toutes parfaitement alignées dans leur jean blanc comme si elles s'étaient concertées. Naël, lui, devait toujours attendre. Attendre. Car...
J'étais garé en double file, mon ptio. Je t'avais pourtant dit au téléphone, tu traverses la gare, tu prends la deuxième à droite, troisième à gauche, tu me trouves.
Naël avait déjà tenté par le passé de trouver sa mamie, mais c'était mission impossible. Pourtant, il avait déjà 8 ans, bon Dieu. Elle avait beau lui expliquer 1000 fois les règles de la chasse au trésor, il finissait toujours par se perdre. Cette fois, il avait donc jugé bon de patienter sagement, car il savait que s'il s'aventurait seul dans la ville, il finirait comme la dernière fois au commissariat. Mais bon...
Les flics, ils en font toujours tout un monde. Franchement, nos jours, les gosses sont des vrais petits fragiles. À mon époque, je peux vous dire que c'était autre chose.
Chapitre 2. Les monstres ne mordent pas. Naël, sagement assis sur sa valise, repensait à son dernier rendez-vous chez le docteur des oreilles. Ses parents l'emmenaient le voir régulièrement pour constater ses progrès grâce aux appareils. Le monsieur scrutait intensément l'intérieur de ses oreilles comme s'il y cherchait de l'or. À chaque fois, le petit garçon lui posait la même question.
Est-ce que je vais bientôt pouvoir apprendre la musique ?
Oh, on verra plus tard, mon petit. On verra plus tard.
Une fois de plus, Naël se sentait terriblement impuissant, comme quand il croisait ses voisins, tétanisé, incapable de prononcer le moindre mot.
« Tu es encore un peu jeune. »
résonnait dans les murs froids du cabinet et rebondissait dans sa tête inlassablement. Les mêmes mots en boucle. Naël commençait à désespérer. Sa colère montait en lui, coincée au niveau de la gorge, comme une traînée de lave brûlante prête à recouvrir les plaines. Au loin, les dernières voitures luxueuses des grands-mères qui sentent bon quittaient le parking, mais ils ne s'inquiétaient pas. Mamo était toujours en retard. Et apparemment, depuis longtemps. Maman lui disait souvent qu'aussi loin qu'elle s'en souvienne, Mamo avait toujours été bordélique. Et d'autres mots qui finissent en « hic ». Quant à papa, il pouffait de rire en répétant toujours la même blague.
Mamo, elle voit rock. C'est son côté rock. Rock, 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 rock.
Hein? Maman en avait marre de cette blague et Naël ne la comprenait pas, mais souriait quand même à son papa. Une fois la foule partie, l'enfant remit ses appareils. L'impression constante d'être vu comme un monstre, difforme, comme si tous les regards se jetaient sur lui. D'un seul coup, il avait décidé de ne plus être en public ce garçon robot. Il avait pris l'habitude de ne mettre ses appareils qu'auprès de sa famille, seul endroit où il se sentait vraiment en confiance. Désormais, Naël ne pensait plus qu'à une chose. Retrouver le cabanon du fond du jardin. Ses heures, passées dans cette petite maisonnette en bois, le remplissaient de joie. Il était le seul à savoir ce qui s'y passait et ne comptait partager ce secret pour rien au monde. Ses parents ne comprenaient pas ce qu'il y faisait. Quand Mamo leur expliquait au téléphone qu'il avait
« Encore passé sa journée dans le cabanon. Il doit crever de chaud, le petit haut là-dedans. »
Il fut interrompu dans sa rêverie par un cri strident reconnaissable entre mille.
Naël !
Ses lunettes de soleil violettes sur le front, son sourire jauni par la fumée de cigarettes, sa polaire trop vieille qui sentait la cave, son treillis militaire extra large et sa paire d'espadrilles roses à talons. La seule, l'unique, Mamo. Elle avait fini par arriver sur le quai, transpirante, la clope au bec. Ses cheveux débordants, comme des fougères qu'on laisse à l'abandon, coulaient sur son visage rond en forme de couteau à beurre. Pour la première fois, Naël se dit que Mamo était la seule femme multicolore dans cette ville si blanche.
Alors mon petit, t'embrasses pas ta Mamo chérie ?
Chapitre 3. Où naissent les vagues ? En route vers le parking, Naël saisit la main fripée de sa grand-mère.
Ça lui rappelait, c'est ben trop long.
Rassuré par l'odeur de crème solaire et de gitane, le petit garçon ne regardait plus qu'à quelques centimètres de lui, marchant sur les dalles sans toucher les traits. Au volant de son
tas de ferraille qui roule,
entre la ceinture qui marche pas et les mégots entassés dans des bouteilles cristallines, Mamo se tourna vers la banquette arrière.
Bon, mon petit, tu le dis pas à ta mère, mais j'ai des amis de passage en France qui sont venus me rendre visite. Ils vont passer quelques jours à la maison.
Naël, habitué au mystère avec sa grand-mère, ne posait jamais de questions dans ces moments-là. Il jouait sur son siège, criant des vaisseaux avec ses doigts en imaginant des guerres galactiques.
Espèce de con ! Abruti de la tête, tu veux mourir ?
Bon, entre nous, il en a jamais voulu à Mamo pour les gros mots, déjà parce qu'il récupérait 20 centimes à chaque fois et ça faisait plus de schtroumpf pour lui, mais aussi parce qu'à l'école, il frimait avec ses nouvelles insultes. Naël connaissait bien Mamo et il savait que quand elle criait, c'était juste que
« Je préfère dire ce que je pense. Au moins, je ferai pas de concert à cause de ça. »
Il n'avait jamais trop compris le rapport avec la musique, mais il lui faisait confiance. Il a toujours su que quand elle conduisait, Mamo n'était pas vraiment elle-même. Ça lui rappelait toujours Nico, son pote de l'école, qui pour un rien pouvait crier très fort parce que
« On m'écoute jamais, donc mes parents disent qu'il faut toujours parler plus fort. »
Naël enlevait ses appareils et lui proposait d'aller jouer au foot. En général, ça passait. Avec Mamo, c'était pareil. Fallait juste attendre que la vague passe. Et les vagues, c'est pas ce qui manquait. Ici, on appelait même ça les rouleaux. Naël a toujours aimé les rouleaux parce qu'ils sont infinis. Il avait l'impression qu'ils venaient de nulle part et qu'ils étaient juste là, rassurants, comme les réponses de Mamo sur la vie. Il avait pris l'habitude de poser des questions en langage des signes quand ils étaient en voiture, ses mains donnant directement sur le rétroviseur.
« Dis, Mamo, elles naissent où, les vagues ?»«
Ah bah, mon pio, loin, très loin. T'as toujours des questions de philosophe, toi, hein, comme ton père. »«
Un philo quoi ? C'est quoi, ça ?»«
Laisse tomber. »«
Mais du coup, elles naissent où, les vagues, Mamo ?»«
Je t'emmènerai. » Si t'es sage.
Chapitre 4. Sont marrants ces adultes. À l'arrière, Naël sentait l'odeur du sel et des pins se déposer sur son polo, les yeux rivés sur l'horizon. Il s'imaginait un rond-point géant, au milieu de l'océan, où toutes les vagues se rencontreraient en se demandant si c'est par là les plages. On voyait cette longue ligne horizontale à perte de vue. Juste l'eau.
l'océan. Mamo le surnommait
« Le Grand Bleu ».
Les derniers rayons du soleil balayaient la baie et sa longue étendue de sable. La voiture s'alignait symétriquement avec le littoral en plein travaux. Naël trouvait ça moche, tous ces immeubles. Du ciment, encore du ciment. Ça l'amusait, cette naïveté chez les adultes. Il croit sincèrement pouvoir contenir l'océan avec ce simple remblai bétonné. Sont marrants, ces adultes. Toujours à donner des conseils sur ci, sur ça, mais incapable d'accepter que la mer est plus forte qu'eux. Ça lui rappelait ses voisins. Les critiques, c'était comme l'océan. Les mots méchants correspondaient aux colères déchaînées des tempêtes. Il avait appris à rester patient et serein. Comme l'eau à perte de vue, les jours s'en vont. L'océan lui transmettait son calme. Au fond de lui, cette sérénité s'installait profondément, comme un allié de tous les instants. Quand la bande des voisins le harcelait, il pensait toujours au Grand Bleu. Rester solide, calme. Un jour, il ferait taire ses détracteurs. Pas le choix. Le long break rouge sillonnait les rues calmes de la ville, passait devant la crêperie, la boulangerie, la pharmacie, puis le garage. Dernière ligne droite, il ne pensait plus qu'au cabanon. Plus ils approchaient de la maison, plus le pouvoir attractif de ce petit espace grandissait en lui, comme un lieu magique. À peine arrivé, devant la façade décrépite de la maison, une voix bizarre accueillit le garçon et sa grand-mère.
« Hey, maman, te voilà enfin !»
Ça ressemblait à du français, mais mâché, comme quand on parle avec un chewing-gum. Naël ne comprenait pas tout, mais ça lui évoquait les retours tardifs de papa après le travail, quand il mangeait les mots comme pour accélérer le temps. Cette voix étrange, c'était celle d'un grand homme, au regard clair, habillé dans une tenue jaune Pikachu. John. Ses cheveux crépus gonflaient au vent comme une corde à linge. Mamo appelait ça les
Red Cops
ou les
Red Hot.
Naël ne savait plus trop. Ça demandait beaucoup d'entretien, comme un jardin. Les siennes arrivaient quasiment jusqu'au sol. Il s'avança vers la voiture avec deux verres à la main et invita Mamo à trinquer, puis lui alluma un
calumet fait de plantes du jardin, mon ptio. Avec ça, tu seras jamais malade.
Deux autres grands messieurs attendaient devant la porte. Il n'était que 18 heures. Et Naël demanda pourquoi ils étaient déjà en pyjama. Mamo explosa de rire et lui présenta ses amis venus d'Amérique. Leur pyjama, ça s'appelait des sarouels. Mamo ne les avait pas vus depuis des années. Ça lui rappelait ses
pavés de 68
et d'autres souvenirs de jeunesse. Ils étaient tous musiciens et formaient un groupe de rock de passage en France pour des concerts. Chapitre 5. Le cabanon magique. Rien n'avait bougé depuis l'été dernier. Le papier peint jaune ciré abîmé par le sel, la terrasse pleine d'outils de jardin, la vue sur les pins et au loin, l'océan à perte de vue. Mais surtout, l'immanquable. Lieu de tous les désirs du petit garçon. Le cabanon au fond du jardin. Ce petit bout de bois de 6 mètres carrés contenait les mystères qui hantaient elle à chaque retour parisien. Sa boîte à secrets. Son dîner à peine englouti, Naël se retourna vers Mamo, lui lançant son regard le plus attendrissant. Il pouvait attendre des heures dans cette position pour parvenir à ses fins. Et Mamo savait très bien ce que le ptio attendait.
Hey, ça fait même pas 3 heures que t'es là. Attends un peu, attends.
Mamo!
Laisse-nous un peu digérer. On va y aller.
Oh oui, s'il te plaît. Le cabanon.
Répondit le petit garçon avec des grands gestes indiquant le fond du jardin. Il mourait d'envie de retrouver son paradis. Mamo fit signe à John. Il se leva difficilement, les marques de la chaise profondément imprimées sur les plis de sa tenue. À partir de la terrasse, 6 pas dans le gazon. Passé devant le fraisier, l'ombre du trousseau sur la dalle, coup de clé dans le canon. Toujours le même rituel que Naël connaissait par cœur. Son monde s'ouvrait à lui. Après des mois d'attente, Naël se retrouvait enfin seul dans le cabanon. Il laissait ses appareils auditifs de côté et pouvait enfin s'adonner à son activité favorite. Elle était là, trônant fièrement. c'était comme si elle posait. Entre les vélos et la table de ping-pong, Naël ne voyait qu'elle, la guitare électrique de son grand-père, qu'il avait surnommée Daisy. C'était le seul objet physique que lui avait légué Papo. Le dernier témoignage de la vie de cet homme qui n'était plus là, mais tellement présent par tous les souvenirs qu'il avait laissés dans les cœurs. Cette guitare, Papo l'avait achetée avec sa première paye. Il l'avait utilisée pendant des décennies et disait souvent qu'il avait passé tellement de temps à jouer dessus qu'il y avait sûrement laissé une petite partie de lui, comme un minuscule morceau de l'âme qui s'accrocherait à l'objet avec le temps. En tout cas, c'était le seul lien que Naël avait avec lui. Et quand il saisissait le manche de la guitare, il ressentait toujours une demi-seconde de frisson. Il n'y faisait plus vraiment attention, mais il était persuadé que ses poils se hérissaient car il sentait la présence de Papo sur chaque corde. La poussière qui recouvrait Daisy l'enveloppait parfaitement, comme une couverture naturelle. Le cabanon semblait vieillir un peu plus chaque été, comme si le sel et l'érosion attaquaient le bois boursouflé. Daisy, par contre, semblait ne pas bouger. À l'inverse, à chaque fois que Naël la saisissait, il avait même l'impression qu'elle redevenait de plus en plus neuve, comme si elle rajeunissait. Le dernier rayon de soleil disponible s'écrasait sur l'instrument, comme pour le mettre encore plus en avant. Le petit garçon empoigna son manche en bois, se dressant vers le ciel comme une fusée. Il n'avait jamais pris de cours, pas une seule leçon de guitare, et pourtant, à chaque fois qu'il improvisait sur la Gibson rouge, il jouait comme un dieu. Naël n'entendait pas une seule note, mais n'avait qu'à les imaginer en tapant les cordes, et Daisy faisait ce qu'il lui demandait. Comme un langage universel, les vibrations encourageaient chaque geste du petit garçon. Naël ne savait pas exactement si Papo demandait à la guitare de jouer à sa place ou s'il avait simplement rendu Daisy magique. Mais le résultat était saisissant, comme habité par une puissance qui le dépassait. Attirés par le bruit, les amis de Mamo s'approchèrent de quelques pas dans le jardin. Ils pensèrent d'abord que ces notes endiablées provenaient du garage du voisin, un joueur du dimanche. Cette mélodie saturée semblait pourtant beaucoup plus proche. John, entouré de ses deux collègues, se rapprocha encore un peu plus pour regarder à travers la serrure. Mamo leur avait dit que son petit-fils souffrait de ne pas pouvoir apprendre la musique et les Américains s'étaient promis de l'initier. Mais ils s'attendaient à tout, sauf à ça. John était sidéré, stupéfait, incapable de comprendre le spectacle auquel il assistait à travers la serrure étriquée. Le petit garçon semblait possédé, le visage vers le ciel, utilisant même jusqu'à ses dents et ses pieds pour faire vibrer les cordes. Il n'avait jamais vu ça de sa vie. Naël semblait inarrêtable, comme porté par une pulsion divine. Il poussa soudain la porte et le petit garçon continua à jouer en le regardant. Depuis la terrasse, Mamo n'en croyait pas ses yeux. Les deux comparses de John coururent vers leurs instruments, les branchèrent le plus rapidement possible et se mirent à accompagner Naël, véritable chef d'orchestre. Ils tenaient le rythme, changeaient la tonalité quand ils le souhaitaient et le groupe, pourtant professionnel, peinait même à le suivre dans ces gammes si compliquées. Une improvisation légendaire. Épuisé. Après plusieurs heures de jeu, le petit garçon lâcha finalement la guitare, remercia les amis de Mamo d'un bref signe de la main et alla se coucher, comme ça, sans dire un mot. Chapitre 6, finale. Daisy Rock. Le lendemain matin, médusé, le groupe de rock proposa à Naël de les rejoindre sur scène le soir même pour un festival dans la région. Le concert devait avoir lieu devant des milliers de personnes. Entre deux tartines, Naël haussa les épaules, leur adressa un
« Pourquoi pas ?»
que Mamo traduisit, mais imposa sa condition. Il ne jouerait que sur Daisy. Le petit garçon savourait chaque minute passée sur sa guitare. À Paris, il cherchait des partitions sur Internet, dans le dos de ses parents, mais ne comprenait pas une seule note. À chaque relance auprès d'eux et de son docteur, la réponse était toujours la même et il avait décidé, il y a plusieurs années, d'essayer de son côté. Daisy était apparue comme une évidence. C'était l'unique héritage que son grand-père lui avait fourni avant sa mort et il comptait en faire bon usage. Loin de sa guitare, il ignorait tout de la musique. Par contre, quand il la jouait, c'était comme si tous les musiciens du monde, depuis des millénaires, lui transmettaient instinctivement tous leurs apprentissages. Il devenait un virtuose extraordinaire, comme porté par le génie de Lennon, Hendrix et Clapton à la fois. Le soir même, Naël joua devant une foule en délire. Les gens s'agglutinaient à des kilomètres à la ronde, au point de former une masse informe s'étendant à perte de vue. Comme un océan, rempli de personnes cette fois. L'horizon était noir. Et la poussière créée par cette immense foule s'échappait comme un nuage lourd de fin d'été. Dès les premières notes, la foule fut subjuguée par le talent indescriptible de ce jeune garçon d'à peine 8 ans. Les médias présents le surnommèrent rapidement le nouveau Hendrix. On connaît la chanson, comme pour assouvir leur besoin constant de comparaison. Naël ne comprenait pas trop pourquoi, mais ça sonnait bien. Et ça rimait même avec Perdrix. Mamo lui dit que de toute façon...
Les médias ont besoin de ça. Ils partent du passé pour se sentir utiles dans le présent.
Le concert dura plusieurs heures. Et à nouveau emporté par son génie, Naël dirigea le groupe. John et ses collègues réussirent tout juste à tenir le rythme, eux-mêmes impressionnés par le jeu du petit. Plusieurs vidéos furent prises sur le moment et devinrent rapidement virales sur Internet. À son retour à Paris, Naël avait acquis le statut de star dans son quartier et ses voisins le percevaient désormais comme leur idole. Malgré son succès naissant, Naël était toujours terrorisé à l'idée de les croiser. La bande, par contre, portait de l'attention à chacun de ses faits et gestes et apprit même le langage des signes pour échanger avec lui. Toute la bande rêvait de pouvoir communiquer pleinement avec Naël. Il allait quitter le quartier pendant plusieurs mois pour une tournée internationale avec le groupe de John et les voisins salivaient à l'idée de le croiser dans le hall. Comme quelques mois auparavant, mais plus pour les mêmes raisons. Ils attendirent des heures pour être bien sûrs de le croiser. Finalement, Naël sortit de l'ascenseur plein à craquer de valises. Daisy était là, dans sa housse bleu marine, contre le miroir. Les voisins étaient suspendus à ses mains, impatients de l'écouter. Naël s'avança d'un pas serein et s'adressa à l'audience.
J'oublierai jamais ce que vous m'avez fait subir, mais je vous pardonne.
Ses parents hurlèrent très étonnés. Après des années de souffrance, Naël avait décidé de faire table rase du passé. Même s'il n'accepterait jamais leur comportement, il avait décidé de pardonner. Le petit garçon n'oublierait jamais toutes les moqueries, la violence subie et les blagues répétées. Il pensa à tous les enfants harcelés avant lui et à ceux qui allaient l'être après lui. Mais il savait qu'il fallait les pardonner pour les comprendre et faire en sorte qu'ils effacent ce mal qu'ils avaient en eux pour ne plus le répandre sur les autres. Naël leur adressa un dernier regard bienveillant. Les voisins éclatèrent de joie. La nouvelle idole, ancienne cible de toute leur cruauté, leur avait répondu et leur accordait son pardon. Ils se promirent, en se regardant au plus profond des yeux, de ne plus jamais recommencer et de toujours garder l'œil ouvert sur les autres, victimes ou bourreaux, pour que cela ne se reproduise plus. Désormais, Naël se sentait protégé. Leur échange résonna en lui comme un profond soulagement. Il jeta un clin d'œil discret à Daisy et sentit à travers la housse une légère secousse. Désormais, il ne serait plus jamais seul. Sa Gibson rouge l'accompagnait et elle l'aiderait à traverser toutes les étapes. Il allait grandir avec elle, se comprendre et prendre confiance. Une alliée éternelle, comme pour remplacer Mamo, quand elle ne serait plus là. Naël s'avança pour rejoindre son taxi vers l'aéroport, entouré par ses deux parents. Quelques heures plus tard, la tête posée sur le hublot de l'avion, Naël sursauta. Son regard était attiré par un tourbillon, au loin. Il était assez haut et pensa à une illusion d'optique. Le petit garçon n'était pas persuadé de ce qu'il voyait, mais après avoir regardé attentivement, c'était évident. Il assistait à la naissance de toutes les vagues du monde vues d'en haut. Il sourit et pensa à maman. Fin de l'histoire.
Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'imite vachement bien la voix de Lord Esperanza.
C'est vrai que t'es pas mauvais.
Je te remercie, c'est chic de ta part.